Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Les Espiègleries, Festival de la Clairette, et pour nous en parler, Harold David, directeur de l'association Est-Ouest, le programmateur du Festival Est-Ouest, le programmateur du Théâtre de Die, et enfin, le petit dernier, donc les Espiègleries, rencontre entre une profession, un produit phare, qui est la Clairette, et un public familial.
C'est un travail qui est lié, d'une part, à la commande du syndicat de la Clairette, qui nous a sollicité, en fait, pour réfléchir à comment renouveler le concept de la traditionnelle fête de la Clairette pour en faire un festival vraiment qui est une dominante culturelle et au travers duquel, eh bien, la Clairette et tous les vins de l'appellation pourraient être mis en valeur en regard, si je puis dire, d'une programmation. Donc c'est vrai que la thématique de l'humour musical, c'était une proposition de ma part auprès du syndicat, justement parce qu'il me semblait que par rapport à la Clairette, qui associait une image de vin plutôt festif, plutôt lié à des choses légères, pétillantes, enfin les bulles, etc., qu'il était préférable de s'orienter vers une thématique de ce type qui soit en adéquation avec l'image du vin en question. Cette thématique de l'humour musical, elle nous permettait aussi que chaque spectateur puisse, quels que soient ses goûts, trouver au moins une proposition, voire plusieurs, qui puissent l'intéresser. Il y a deux modifications, entre guillemets, majeures qui ont été faites entre l'année dernière et cette année. La première, elle concerne le site d'implantation du festival, puisque on a décidé, avec le syndicat de la Clairette, d'organiser le festival des Espiègleries à partir du théâtre de Die. Et puis, deuxième chose importante qui a été modifiée, c'est que l'an dernier, on avait mis en place ce qu'on avait appelé le village des vignerons, où il y avait quasiment tous les viticulteurs de l'appellation qui avaient un stand et qui faisaient déguster, en fait, leurs produits. Et cette année, là, il a été souhaité de plutôt orienter ça sous vraiment la découverte du produit Clairette et des vins de l'appellation, mais sans mettre en avant chaque producteur. Donc il va y avoir une cuvée unique, en fait, la Clairette, qui va être servie un peu partout pendant la manifestation, et de plutôt centrer, en fait, la découverte de la Clairette au travers d'ateliers. Et également, il y aura une partie qu'on a appelée cette année le jardin des vignerons, qui sera centrée sur la question de l'accord entre les mets et les vins. Pour cela, on a différents producteurs de produits du terroir qui vont être présents et qui vont à la fois vendre leurs produits, bien sûr, mais aussi faire des dégustations associées avec des vins de l'appellation, la Clairette, le Crémant, mais aussi le Cotonnier, le Châtillon andivois, enfin bref, tous les vins qui relèvent de l'appellation. Le syndicat participe financièrement à l'organisation de la manifestation. On a aussi un certain nombre de partenaires publics ou de sociétés civiles qui nous accompagnent, puisque la ville de Die, le département de la Drôme, la région et l'Europe, ainsi que l'aspect d'IDAM et a priori le CNV, nous accompagnent sur l'organisation du festival. Donc c'est vraiment la somme de, au propre comme figuré, de toutes ces énergies et puis aussi de ces moyens qui permet de mettre en place un événement de cette envergure. Sur ce festival-là, on est sur un budget qui avoisine les 80-85 000 euros. On a une très belle participation et énergie bénévole qui nous accompagne pour permettre de réaliser cet événement dans de bonnes conditions. Il y a quand même eu également 6 000 spectateurs l'an dernier. Les manifestations font en général 5 ans pour qu'elles puissent vraiment prendre leur rythme de croisière et s'installer dans le paysage.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le programme Biotope, chargé de vous apporter un peu de lumière sur la Biovallée. Comment se préparer à l'épuisement des énergies fossiles ? Les enjeux de l'après-pétrole sont énormes. Que faire du débat national sur la transition énergétique ou comment faire avancer les choses localement ? En réhabilitant des logements dits passoires énergétiques ou bien en élaborant des projets ? Au menu du jour, nous entendrons parmi les solutions locales le projet de la centrale photovoltaïque de la vallée de la Gervanne, porté dans un premier temps par Carole Torini qui fait partie du conseil de gestion et qui nous présente le projet.
C'est un projet qui a été initié par l'Agence Rhône-Alpes Énergie Environnement et le Parc du Vercors. C'est un projet expérimental. En réalité, il y a 8 sites pilotes répartis sur 5 parcs de la région Rhône-Alpes. Donc la Gervanne, c'est un projet parmi d'autres. Il y a 4 communes sur la Gervanne qui sont concernées, enfin qui étaient concernées au départ, et puis il y en a 2 autres qui se sont rajoutées. Donc il y a Plantebaie, Beaufort-sur-Gervanne, Gigor et Lozeron et Combeauvin. Et Suze et Cobonne se sont rajoutées au projet. Alors le principe de ce projet, c'est de produire de l'électricité, donc en mettant en place des panneaux photovoltaïques sur les toitures d'un village, en essayant de faire en sorte que ces panneaux soient bien intégrés au niveau architectural et paysager au village, puisqu'on est sur des villages remarquables. En l'occurrence, c'est Plantebaie qui est le site principal de la centrale. Et la deuxième idée du projet, c'est de faire en sorte que l'investissement qui va être nécessaire en fait pour ces panneaux soit réalisé localement par l'intermédiaire d'une société locale. Donc on a eu à choisir entre différents statuts de société. On a choisi la société Action Simplifiée sur un mode coopératif. Donc tous les gens qui veulent, donc les gens du territoire, hein, c'était le principe que les ressources reviennent au territoire. Tous les gens qui veulent participer au projet prennent des actions dans la société et chaque personne, quel que soit le montant investi, a une voix délibérative dans la société. Voilà, donc on a monté, alors ça a été assez long, hein, ça fait à peu près 3 ans qu'on a commencé ce projet, donc il y a eu une phase d'animation, puisque c'est pas un projet qui émane du territoire, c'est un projet qui a été proposé au territoire, donc il y a eu une longue phase d'animation pour expliquer aux gens ce qu'on voulait faire, voir où on pouvait le faire, comment, etc. Et puis ensuite, il y a eu la phase de créer la société, qui a été assez compliquée, donc il y a eu un groupe de travail qui s'est mis en place pour travailler sur les statuts. Voilà, on a proposé ces statuts à tous les habitants et donc on a créé la société. Et là, on en est au stade maintenant qu'on a créé la société, qu'on a choisi nos toitures, on a vu avec les propriétaires, on a déposé donc à ERDF les dossiers de raccordement sur toutes les toitures. Donc il y a 14 toitures qui sont proposées pour la première opération. Et donc on attend la réponse en fait de ERDF pour savoir à quel prix ils vont nous chiffrer ce raccordement. Et à ce moment-là, on pourra terminer le bilan financier de l'opération et voir si c'est viable ou pas. Bon, a priori, ça devrait être viable, mais bon, on attend cette dernière réponse. Voilà. Et donc, si tout se passe bien, on pourra éventuellement commencer les travaux d'ici un an. Enfin, on espère en tout cas, voilà, mettre en place les premiers panneaux. Et la dernière idée, c'est que ce projet soit reproductible, en fait, parce qu'il est expérimental. Enfin, voilà, il faudra voir si c'est viable pour réaliser ensuite d'autres opérations et reproduire l'opération sur d'autres villages ou d'autres territoires.
Ce jour, nous avons le plaisir d'avoir quelques nouvelles de la SAS, centrale photovoltaïque de la Gervanne. Un projet qui date de janvier 2009, qui a fédéré autour de lui de nombreuses réunions publiques en études paysagères, en études de faisabilité. Des habitants de 6 communes, Beaufort, Plantebaie, Cobonne, Combeauvin, Gigor et Lozeron et Suze-sur-Craie au départ, se sont rapprochés et rejoints bientôt par des personnes issues d'autres territoires. Et René Duguay, ancien chef d'entreprise, retraité aujourd'hui. Monsieur Duguay, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pris au départ le train
En marche.
En marche. Pourquoi ?
Eh bien, parce que j'étais intéressé par le projet. Le projet, je le trouvais, dans l'idée de citoyenneté, je trouvais que c'était quelque chose de bien. En plus, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu maintenant à se tourner vers les économies d'énergie. Et puis, ayant un peu de temps libre, je me suis laissé entraîner dans un premier temps par une petite étude pour mettre en place des statuts de la société. Et puis, de fil en aiguille, on m'a posé la question de confiance. Est-ce que tu voudrais pas prendre la présidence de la société qui prendra jour dans naissance dans quelques temps, quoi ? Alors, je me suis laissé tenter et j'ai dit oui.
Ce projet, qui l'a porté au départ ?
Ben, au départ, le Parc du Vercors avait créé des ateliers participatifs pour les communes. Et puis, de façon à ce que les communes prennent un petit peu en main leur destinée. Et c'est parti comme ça. Quelques personnes ont lancé des idées de projets. Et puis, le photovoltaïque est arrivé sur la table, si on peut le dire. L'idée a démarré comme ça. Et puis, après, ben, il a fallu lancer une étude plus approfondie sur la faisabilité. Donc, on a, au sein du parc et des élus, une mission a été donnée au maire de Gigor, Madame Carole Torigny, pour contacter les élus, la population et puis les différents bureaux d'études pour faire une première étude de faisabilité.
Finalement, qui rassemble-t-il ? Des pro-nucléaires, des anti-nucléaires, des alternatifs, des idéalistes ?
Non, je ne pense pas qu'on ressente parmi la population et parmi les gens qui sont porteurs du projet, c'est des gens qui sont... Oui, sans doute que certains sont anti quelque chose. Mais non, c'est pas ce qui domine, c'est plus le côté regroupement des habitants des communes. C'est un moyen pour eux de se réunir et de faire quelque chose ensemble dans un sens positif.
Ils se sont réunis, comme je le disais dans ma présentation, beaucoup de réunions faisant appel un petit peu à la démocratie participative, une action qui est de plus en plus encouragée par la région, par le conseil général, par toutes les instances politique qui nous gouverne. Vous avez trouvé ces rassemblements citoyens constructifs ou bien est-ce qu'il a fallu quand même piloter ?
Oui, de toute façon, il faut, les idées étant un petit peu lancées dans tous les sens, et c'est un peu normal lorsqu'on ne connaît pas certains sujets. Oui, il fallait un guide, et je crois que le guide, on l'a trouvé auprès de Rhône-Alpes Énergie qui a maîtrisé l'avancée et la mise en place de ce projet.
On a commencé à parler des partenaires d'ailleurs, on a cité le parc du Vercors, on a parlé de Rhône-Alpes Énergie. Est-ce que d'autres finalement se sont sentis aspirés par ce projet ?
La région, bien sûr, et puis le CCVD aussi, qui est partie prenante, mais qui est très très intéressée par notre projet et qui a même nous a proposé une avance financière.
Effectif depuis décembre 2012, hein, puisque
oui,
vous avez déposé les statuts de cette SAS. Donc c'est avec l'investissement des différentes communes que vous avez pas à pas élaboré les différents statuts qui allaient définir la SAS.
Oui, c'est avec les représentants de ces six communes que, après plusieurs réunions, de multiples réunions même, on a pu établir les statuts de la SAS. Il a fallu d'abord choisir le type de société. Est-ce que c'était une coopérative ? Est-ce que c'était une société anonyme ? Est-ce que c'était une société anonyme simplifiée, comme on a pris la décision de le faire ? Voilà, tout ça, il a fallu faire des comparaisons et pouvoir aller dans un sens qui était le plus favorable pour notre création.
Donc peut-être que pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont suivi de loin dans la presse locale ou encore par le bouche à oreille les différents axes de développement de cette centrale photovoltaïque, vous pourriez peut-être nous faire un petit résumé de ce que va être cette centrale photovoltaïque avec ses enjeux et ses participants.
Les enjeux, c'est ce qu'on disait, c'est la production d'électricité. L'enjeu financier, au point de vue rapport, est quand même un petit peu limité dans la mesure où on aura un retour sur investissement qui va être assez long au bout d'une dizaine d'années. Les intérêts sont quand même conséquents par rapport au coût des intérêts d'un livret A. Mais on en revient toujours à cette idée de dire que l'opération est surtout une opération de citoyen, une opération qui permet de montrer l'exemple dans ce qui peut être fait dans le sens des économies d'énergie. Alors c'est vrai que la société aura besoin de rentabilité puisque les panneaux photovoltaïques vont être installés sur des toitures de particuliers, voire de bâtiments communaux. Ces toitures seront louées, donc il faudra rétribuer ces locations et voilà, donc il faudra à tout prix qu'il y ait une rentabilité quand même satisfaisante. Sinon, sans rentabilité, pas de mise en route du projet.
Alors rappelons quand même aux auditrices et auditeurs qu'il s'agit d'une démarche un petit peu inédite en termes de production d'énergie renouvelable. Une centrale villageoise, photovoltaïque. Sur la vallée, je crois qu'il y a une centrale hydroélectrique qui est située un petit peu plus dans le Diois et qui existe depuis un certain nombre d'années. En ce qui concerne le photovoltaïque, vous êtes les précurseurs.
On est les précurseurs, oui, surtout dans le fait de rassembler plusieurs communes. L'innovation est là, c'est dans le système de groupement de ces communes pour un seul et unique projet.
Alors je crois que ce projet qui est développé dans le parc du Vercors fait partie d'un ensemble de projets qui sont aussi développés dans d'autres parcs naturels.
Tout à fait, il y a le parc du Pilat, où un projet est en gestation, il est moins avancé que le nôtre, mais il est déjà bien avancé. Et puis dans le Trièvre, il y a un projet qui est en gestation, lui qui est vraiment dans la phase de démarrage. Et puis je crois qu'il y a d'autres projets en Bretagne aussi.
Vanité dans lit de chair, lit de peau, juste des fast-food dans lisière des ghettos. Minorité dopée au crâne, lit torrentiel avant le chute, finale dans la poubelle. Tes vanités, tes chirouettes, tes drapeaux, le diable. Et ta notable tête de mort, toi là que parvenir à tes fins et tenter d'en profiter avant de péter les câbles. Repose, cool, petit humain seul, la mort c'est faire la paix. Ta vie n'est qu'une guerre, des vanités. Repose, cool. Petit humain seul, la mort c'est faire la paix. Ta vie n'est qu'une guerre, des vanités. Des vanités. Et elles nous tirent leur chapeau dans le dos. Fallait pas commencer par tout terminer. Assouvir ton orgueil, ta fierté. Faire feu de tout bois au bûcher des vanités. Le cœur de l'histoire est lourd en écho. Le crelot commun du commun des mortels. Des records, des mirages d'or. La misère ordinaire aux frontières du réel. Repose, cool, petit humain seul. La mort c'est faire la paix. Ta vie n'est qu'une guerre, des vanités. Repose, cool, petit humain seul. La mort c'est faire la paix. Ta vie n'est qu'une guerre, des vanités. Des vanités. Pour de l'amour propre qu'on met en main sale. Et se tailler les costards aux frontières des scandales. Des vanités creuses à toutes fossettes dans le miroir aux alouettes.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Alors c'est vrai qu'on est épaulé par le CAE.
Communauté d'aménagement urbain et économique.
Voilà. Donc c'est vrai que tout ça est fait dans le but de, avec une étude paysagère, de façon à intégrer les installations au paysage, surtout qu'on est quand même dans des sites pas vraiment classés sur plan de baie, mais dans les environs, et que l'on tient à tout prix à garder le côté sympathique de notre région. Donc tout cela est fait dans le respect, et sera fait dans le respect de l'environnement. Il y aura aussi, bien sûr, après, à envisager toutes les possibilités techniques, la fiabilité dans la pose et dans la réalisation de ces installations.
Donc, cette installation va viser le public concerné de ces 6 villages engagés.
Alors, ça concerne, si vous voulez, dans l'esprit, les 6 villages, mais dans l'installation, ça va concerner, dans un premier temps, Plan de Baie, qui a été retenu comme étant le plus favorable à l'installation dans un premier temps. Beaufort, où il y aura une ou deux toitures, et puis Cambovin. Voilà les trois sites qui vont être concernés dans un premier temps.
Et maintenant, par rapport aux participants au projet, alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ne participent au projet que ceux qui étaient engagés depuis 2009? Est-ce qu'à l'avenir, il y aura aussi besoin d'accueillir un public plus large, plus nombreux?
Oui, il faudra que l'on accueille un public plus nombreux et surtout dans le fait de participer à cette aventure. Donc toutes les personnes qui voudront intervenir ou rentrer dans le système seront les bienvenues. On les attend avec les bras ouverts. Pour ce qui est des installations, donc dans un premier temps, les premiers toits sont déterminés, les implantations, à part si ERDF nous empêche financièrement, parce que ça coûtera trop cher d'installer sur des petites toitures, mais sinon, les premiers toits sont déjà définis. Par la suite, si on veut et on espère pouvoir refaire une deuxième, voire une troisième opération sur de nouvelles toitures, et sur donc toujours sur ces six sites-là.
Alors justement, vous abordiez un petit peu la difficulté majeure, mais il y en a peut-être eu d'autres, on pourrait peut-être les visiter ensemble, mais parlons de celle qui est de... finalement d'aller à la rencontre du plus gros distributeur d'énergie avec son petit projet alternatif de centrale photovoltaïque.
Oui, ERDF et EDF sont des gens qui sont très difficiles d'accès dans la mesure où lorsqu'on lance une entreprise, en général, il est bon d'avoir un premier plan de financement, une première estimation. Et avec EDF, c'est pour ainsi dire impossible. EDF vous donnera des estimations financières que lorsqu'on aura défini des toits et que l'on aura fait des demandes d'implantation de panneaux. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, EDF nous fait une offre de raccordement.
Donc on va peut-être réexpliquer le principe, c'est-à-dire que vous allez produire de l'énergie.
On va produire de l'énergie et le but c'est de... en retour d'avoir des rentrées d'argent par EDF et de pouvoir amortir, payer toutes ces installations. Donc le gros avantage, c'est que lorsqu'on s'engage avec EDF, l'engagement est fait pour 20 ans. Donc on peut faire un plan de financement sur 20 ans, ce qui n'est pas le cas pour les autres entreprises. Lorsqu'on se lance dans toute autre activité, les délais, les retours sur investissement ou les rentabilités d'installation sont de courte durée et ne sont pas étalées comme ça à taux fixe sur une vingtaine d'années. Pour notre secteur, il n'y a pas d'autres intervenants possibles.
Alors on parlait des difficultés, on va peut-être y rester, il y en a peut-être eu d'autres.
Plutôt administratives, entre autres trouver un banquier, chose qui n'est pas facile lorsque vous commencez à lui dire que vous êtes intéressé pour ouvrir un compte, il vous demande de faire un business plan, comme on dit, et sans offre de EDF, il est très difficile de faire une estimation de ce que nous coûtera les installations et l'investissement possible à envisager. Bon, on a déjà fait un chiffrage quand même grossier qui est de à peu près 180 000 à 200 000 euros. Donc ça, c'est une fourchette qui est assez large, quoi. Donc on peut pas chiffrer à ce jour le coût réel de l'installation.
Qu'est-ce qui va influer sur cette somme, on va dire un petit peu
Alors, ce qui va influer sur cette somme, il y a déjà donc le coût des raccordements, le coût des installations. Ça, il va falloir que l'on puisse rentrer en contact avec des installateurs, et ce qui sera, je pense, assez délicat puisque on est une époque où il n'y a pas trop d'installateurs à l'heure actuelle. On a à faire face aussi à des coûts de création des baux. Et donc, puisque lorsque les baux passés avec les particuliers sont des baux sur 20 ans, donc ça sort des baux traditionnels faits dans le commerce et dans l'industrie et le petit artisanat. Donc il faut faire intervenir un géomètre pour pouvoir détacher les parcelles correspondant aux toitures. Donc, qui dit intervention de géomètre, dit surcoût. Donc, toutes ces choses-là, on pourra l'établir que d'ici un mois et demi ou deux mois, lorsqu'on commencera à avoir les coûts des branchements, et on fera à ce moment-là une addition de tous les frais inhérent à ces installations.
On parlait du statut qui était le statut de la SAS. Alors peut-être qu'on va repréciser un petit peu ce que c'est qu'une SAS.
Une SAS, c'est une société anonyme, simplifiée, c'est le cas de le dire tout simplement. C'est une société du type courant, sans clause particulière. Si ce n'est que nous, au lieu d'avoir des gérants, on a un comité de gestion avec un président à leur tête. Sachant que le président peut être renommé toutes les années. Le groupe de gestion, lui, est renouvelable par tiers tous les ans.
On va peut-être, maintenant qu'on a vu les difficultés, voir les points forts de cette démarche. Ce qu'il en est ressorti après ces 4 ans de dur labeur en termes humains et citoyens, ça a eu au moins le mérite de générer une fédération humaine.
Oui, je crois que c'est dans un premier temps ce qui en ressort. C'est que derrière, animé par une même idée, une même conception de la vie de nos villages, il y a un regroupement qui s'est fait, et c'est vrai que chacun œuvre dans ce sens-là, avec des idées qui peuvent être différentes des uns des autres, mais toujours dans un sens constructif pour la vallée de la Jarvanne.
Comme dans beaucoup de projets, hein, on se fait déjà une petite idée, peut-être des résultats attendus quand tout sera monté. Vous avez déjà une petite idée des résultats attendus pour que tout se passe bien?
Dans quel sens vous parlez de résultats? Je pense que c'est des résultats financiers.
Oui, bien sûr.
Oui, on sait que le but, c'est d'atteindre des répartitions de bénéfices allant de 3 à 4%. Donc, c'est nettement supérieur à l'heure actuelle au taux du livret A. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, si on regarde le rapport de l'allocation des toitures répartie chaque année, ce n'est pas un chiffre très important, c'est à peu près de l'ordre de 25 euros du mètre carré. Mais l'avantage, c'est que cette somme peut être concentrée, c'est-à-dire qu'un calcul est fait sur les 20 années de location, on obtient une somme en fonction de la surface des toitures libérées, en capteur, hein, parce qu'on peut très bien aménager des toitures esthétiquement sans avoir pour cela une surface de capteur correspondant à la surface aménagée. Et puis cette somme peut être libérée dès les premiers mois, enfin dès les premiers mois de fonctionnement, ce qui peut permettre aux gens d'investir soit dans l'amélioration de l'isolation, soit dans l'installation de capteurs pour l'eau sanitaire. Donc cette somme peut être libérée au départ, et je crois que ça c'est quelque chose de très très intéressant. Et le but, c'est quand même par la suite de reproduire cette expérience, soit dans le photovoltaïque, soit dans d'autres types d'économies d'énergie, et pourquoi pas apporter notre savoir-faire à d'autres sociétés type SAS, type coopérative, dans le parc du Vercors, mais aussi dans les parcs avoisinants.
En termes de perspective, vous avez une idée un petit peu de combien de personnes utilisateurs d'énergie pourront profiter de cette centrale photovoltaïque?
C'est difficile d'établir ce puisque l'EDF rachète toute cette énergie produite, donc il faudrait reprendre le chiffre exact. Mais c'est vrai qu'on peut estimer que si, dans quelques années, on pouvait, nous, utiliser cette énergie directement, et pas repasser par EDF qui nous la redistribue, on pourrait, je pense, être autonome au point de vue énergie.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que si on arrivait à ce genre de choses d'ici une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne sais pas, c'est vrai que ce serait intéressant à ce moment-là de faire d'autres projets sur d'autres communes, quoi.
Donc là, il y avait un chiffre qui était donné dans le Crétois. Pour 512 mètres carrés de toiture, on pourrait imaginer une production équivalente à la consommation électrique de 20 foyers. La SAS, centrale voltaïque de la Jarvanne RAI, c'est comme ça que ça se prononce ?
RAI.
Société locale rassemble un actionnariat de proximité ouvert aux citoyens, aux entreprises locales, aux associations, et qu'elle est pilotée localement et a vocation à dynamiser le développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie sur son territoire. Merci Monsieur Duguay. Merci
à vous. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.